Voilà, on reparle 45. J'ai vu E.T. en concert. Alors, aujourd'hui, ce sera un blog, pas un blog, voyons, un podcast extrêmement personnel. Dans le sens que c'est le propre des podcasts aussi, c'est de, ben, selon chacun, bien entendu. Tout le monde fait ce qu'il veut dans un podcast, c'est la belle affaire. Mais on se permet, règle générale, dans un podcast, j'ai compris, je suis nouveau là-dedans, je commence, je reçois plein de vos commentaires, j'adore ça. J'ai juste mon truc, là, je sens que c'est encore j'étais encore en train de tâtonner, là, tu sais. Mais j'aime vraiment ça. Et c'est ça, c'est que le propre d'un podcast, c'est que c'est plus personnel que ce qu'on entend normalement dans un média traditionnel. Ça ressemble plus à ce que les YouTubers vont faire, par exemple, ou est-ce qu'eux autres, ils sont dans la personnalité 100%, là, tu sais, genre, ça va jusqu'à raconter le dernier drame, puis la peine d'amour, puis etc., puis blablabla. Alors, c'est pas toujours vrai ou sincère, là, il y en a qui... Puis peu importe, là, c'est pas un univers que je maîtrise très bien, mais je suis toujours curieux de voir ce qui se passe sur cette planète-là. Puis c'est drôle parce que ça me rejoint. Ça me rejoint parce que j'ai toujours trouvé que dans les médias, la transparence des artistes et artisans manquait. Et puis je parle pas d'honnêteté, je parle bien de transparence. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès de Jean-Marc Parent, oui, il est drôle. Oui, il faisait des shows capotés. Oui, il y avait des bonnes idées. Pour vrai. Mais Jean-Marc Parent, la différence avec plein d'artistes, c'est que quand tu allais voir un de ses shows, tu le connaissais. Si tu vas voir un show de Philippe Bande, là, son premier show, par exemple, que je trouvais qu'il était très, très bon raconteur, là, il remontait quand il était jeune, dans le sous-sol de son père, etc. Est-ce que tu le connais? Pas tant que ça. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est entre quelqu'un qui dit « voici ce que je pense, voici ce que j'ai ressenti », puis un autre qui dit « voici ce que j'ai vécu ». C'est pas pareil. En un mot, l'anecdote fait pas qu'on te connaît. L'anecdote fait qu'on peut s'attacher. C'est le fun, quelqu'un qui te dit « je suis tombé, puis là, ça fait mal, puis je suis à l'hôpital, devine quoi, il est arrivé, bon ». Ou une anecdote triste. Mais ça, faut bien comprendre la différence. Quand tu racontes une anecdote, tu te dévoiles peu. Je dis pas que tu te dévoiles pas, mais tu te dévoiles peu. Les gens, dans ce qu'ils font... On les connaît pas tant, mais on les reconnaît dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils ressentent. C'est ça les deux paramètres qui fait que. Or, les podcasts permettent ça. Puis moi, ben, je m'intéresse principalement à ce que les gens pensent. Ça fait que c'est normal que mon podcast a plus l'air souvent d'être j'ai une réflexion sur telle affaire, puis j'ai une théorie là-dessus, puis qu'est-ce que vous en pensez. Puis des fois, ça se tient pas. Des fois, ça se tient. Tu sais, regarde, mon dernier podcast, je disais que je comprends pas pourquoi dans l'espace médiatique, on parle si peu des mœurs. Puis quand je dis les mœurs, là, c'est tout ce qui traite là, la vie très, très, très personnelle. Puis mon ami Savard Volé, qui écoute le podcast souvent, je le salue et je l'aime beaucoup, m'a dit, ben, un peu. Elle dit, c'est parce que là, toi, tu réfères à quand t'étais à la télé, puis quand t'étais à blabla, puis quand ce que tu regardes là, t'as fait. Mais elle dit, si tu regardes toute l'autre sphère médiatique qui s'est développée, c'est-à-dire le web, ben, c'est des propos qui sont encore très, très, très populaires auprès des jeunes. Tu dis, ah, j'ai fait, c'est vrai. Il y a un bout de ça qui est vrai. Je persiste à dire qu'il y a une pudeur dans les médias traditionnels, une pudeur, voire même une police, qui fait en sorte qu'il y a des sujets qui amènent polémique. Puis qui, outre politique ou actualité, au niveau personnel, qui amène polémique, puis qui font en sorte que là, c'est comme, non, on parle pas de ça, je l'ai vécu. Ça fait qu'il y a un heureux mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet s'est peut-être déplacé sur une autre plateforme. Puis bon, bref, alors, cette longue intro, comme d'habitude, pour vous dire que podcast égale des trucs très personnels. Or, hier, j'ai vécu quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial. Vraiment spécial. Je suis allé voir... À la Maison Symphonique, donc l'OSM, là, qui est le building à côté de la Place des Arts, je suis allé voir E.T. en concert. C'est-à-dire qu'ils ont projeté sur un écran... Bon, alors là, j'allais dire géant, pas tant. Parce que quand je suis rentré, j'ai fait « Ah, bon, ouais, je m'attendais à ce que toute la scène soit recouverte ou quelque chose du genre. » Fait que ça a été peut-être une petite mini-déception. Mais tu avais l'orchestre au complet. C'était Dina Gilbert qui était la chef d'orchestre, que je connaissais pas du tout, mais il faut dire que je suis pas très féru de ce qui se passe à l'OSM. Là, moi, c'est musique de film, je suis un grand, grand fan fini, mais la musique classique en général, non. Et puis voilà, bon, bref, je la plug parce que c'était elle. Et ça a été du niveau d'Ennio Morricone. Alors, il faut que vous sachiez que moi, grand amoureux de musique de film, j'ai toujours voulu voir à la fois John Williams qui a fait E.T., Star Wars, Indiana Jones, Jazz, des grands classiques, des musiques qu'on connaît tous, puis Ennio Morricone qui a fait Cinéma Paradiso, The Mission, Mon nom est personne, tous les films de Sergio Leone, les vieux western spaghetti, on appelle là, dans le temps. C'est les deux pas mal plus grands compositeurs de musique de film qui ont existé et qui sont encore vivants. Mais Ennio Morricone a 90 ans, puis John Williams est probablement dans les 80 quelques, là, sûrement. Et j'avais à l'époque acheté deux billets, parce que moi, j'ai bien initié ma mère à tout ça. J'ai montré à peu près tous les films que moi, je trouvais bons. La musique de film à trip au bout de là-dessus. Je l'ai initié, si tu veux, là, tout ça. Et j'avais acheté deux billets pour aller voir Ennio Morricone à New York. À vrai dire, trois billets, parce que ma sœur, depuis 10 ans, habite à New York. Parce qu'elle avait annoncé qu'elle allait faire un concert à New York au Madison Square Garden, puis un concert à je sais pas où, à Los Angeles. Et il y a eu des problèmes de dos. Il y a à peu près pas loin de ça, là, comme une dizaine d'années, qui fait en sorte qu'il a annulé ces deux concerts-là, puis il n'est plus jamais revenu en Amérique, même pas proche. Mais l'automne passé, donc le 23 septembre l'an passé, il était en concert à Paris et j'étais là. Parce que j'ai eu à faire deux fois à Paris pour mon classeur l'an passé pour aller voir mon partenaire Antoine. Puis j'avais donc coordonné une de ces deux semaines-là avec le concert en question. Et puis j'ai complètement halluciné. J'avais invité un de mes chums, Christophe, chez qui je restais cette semaine-là, qui lui connaissait pas ça du tout. Je veux dire, vaguement, il avait entendu des airs de films ou autre. Puis ce qui m'avait... Bon, d'un, c'est sûr que j'avais été extrêmement impressionné parce que, je veux dire, j'avais 15 ans, moi, puis je m'intéressais à cette musique-là. Ça fait que c'était très, très, très émouvant, très, très, très touchant. Mais au-delà de ça, jamais dans ma vie, je vous le dis, là, pour les amateurs là, de précision, les amateurs d'exécution, je dirais, là, d'envie, je croyais pas qu'on pouvait être parfait. Je pensais que ça se pouvait pas être parfait. Tu sais, des fois, tu dis, bon, je sais pas, moi, n'importe quoi qui vous intéresse, vous dites, c'est parfait, ou ce livre-là, il est parfait. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des trucs qu'on peut qualifier de parfait, mais... Il m'en venait pas en tête, mais un concert d'Ennio Morricone, c'est littéralement parfait. Parfait. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et puis tu m'en passes pas une, là. Depuis que j'ai 15 ans que j'écoute ça, je peux te dire que j'en ai entendu une fois, puis une fois, puis une fois, puis une autre fois, parce que moi, je suis dérangé dans la tête par rapport au cinéma, puis je peux revoir le même film 20, 30, 40 fois. Pour moi, c'est du bonbon à chaque fois. C'est très bizarre, là, mais c'est le même. Ça fait que les musiques d'Ennio Morricone, tu me diras pas si c'est la bonne tonalité, si la clarinette embarque à bonne place sur le... J'ai une bonne, très, très bonne oreille. J'ai une ouïe, j'ai une vision bien ordinaire, mais j'ai toute une oreille, sérieux. Puis c'était parfait. Je me disais, mais c'est identique. C'était au Accor Hotel Arena, l'ancien Bercy, là, où Céline a joué, puis tout ça. Puis donc, c'est un genre de centre Bell, c'est un centre Vidéotron, littéralement. C'est 20 quelques mille personnes. C'était plein. Vraiment, pour de la musique de film, tu fais comme, OK, c'était vraiment blindé. Puis c'était parfait. Je peux pas vous dire autre chose. C'était exactement comme si on avait mis le CD, Schlong, let's go, on écoute ça, on se ferme les yeux. Pour le trip, au lieu d'être dans le salon, on va aller toute la gang à Bercy, puis on va faire semblant que... Non, c'est exactement ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment capoté. Alors, donc ça, grand rêve réalisé, mais vraiment énorme, énorme. Pour moi, là, je vous le jure, là, c'était comme un événement là, dur à battre, là. Je sais pas trop en termes, tu sais, il parle toutes sortes d'expériences personnelles, mais je sais pas trop quelle expérience là, tu sais, de on se déplace, on va quelque part, c'est pas un truc avec quelqu'un par exemple, tu sais, être bien amoureux ou bien la naissance d'un enfant ou dans le département, j'ai vécu ça, je me suis déplacé, je suis allé là pour ça. Caroline, je sais pas si je vais battre ça, sérieux. Puis j'ai vu des shows, hein, j'ai vu Kiss et Plaine d'Abraham, puis Kiss, j'écoutais ça aussi quand j'avais 10 ans, tu sais, mais là c'est un autre registre parce que c'est tellement émotif. Alors, de retour ici, et puis depuis des années, depuis que je sais qu'il va y avoir cette salle-là qui se construit à Montréal, j'ai toujours été sur le site de l'OSM en me disant, puis j'ai même déjà écrit, « Allez-vous faire un concert avec de la musique de film? » Je veux dire, il me semble que c'est clair que ça va marcher puis ça va être populaire. Je te dis pas que tu vas faire une ride, tu vas être en supplémentaire à la Louis-José Houde, mais anyway, un show de classique par définition, c'est à peu près un soir ici, bon, ciao, bye. Ça fait que, tout ça pour dire que il passe à un moment donné sur le site, je vois quoi? Puis ça, c'était, je peux même vous dire la date, je pense que c'était 26-27 décembre. Tout le monde est en congé, j'étais en train de fouiller là-dessus sur l'ordi. Boxing Day, moitié prix, E.T. en concert. Ah ben, tabarouette. Donc, j'achète les deux tickets, puis je donne ça à ma mère le 8 mars pour sa fête. Puis Matt, tu sais, bon, il est rendu à 86 ans, tu sais, puis je me disais, bon, je vais aller chercher à les retours s'il faut, c'est pas grave. parce qu'elle marche difficilement. Mais je veux dire, elle trippait, elle a fait comme ah, avec l'orchestre, là, c'était comme la grosse affaire. Puis elle m'a appelé deux semaines avant en disant, regarde, je peux pas y aller, c'est trop lourd. Elle dit, quand même, tu viens me chercher, puis t'as l'affaire, puis si, puis. Elle dit, je suis collé chez nous, là. Je peux marcher encore, mais là, il faut aller à Montréal et à Québec, tu sais. Ça fait que, à un moment donné, ma nièce Jeanne parle à ma mère il y a pas longtemps, puis elle dit, hey, ça a l'air que t'aurais un ticket. C'est que je suis allé avec ma nièce. Donc ça, je trouvais ça très fort aussi. Ma mère peut pas venir, mais c'est Jeanne qui vient d'Inde. Donc c'était hot. Et je suis allé là, donc, hier, c'est qu'on est allé faire un petit tour au Midway. Jeanne, elle étudie à l'Université de Montréal. Après, on est allé au Bon Bléry, où ça faisait un bout que j'étais allé, qui est un resto où j'allais très, très, très souvent dans le temps, qui est juste à côté, sur Saint-Laurent. C'est que j'ai comme fait un espèce de circuit classique avec ma nièce, je trouvais ça hot. Mais surtout, là, on était très, très bien placés en GJ. Et le concert... Écoute, je peux pas te dire si c'était parfait. J'ai pas noté, mais... On dirait que c'est dur. On dirait que dans ma tête, j'ai même pas le droit de dire que c'était mieux que le concert de New Morricone, mais oh my God, quand quelque chose te touche, parce qu'un show rock, ça te touche, tu sais, à quelque part, tu peux brailler en voyant tes idoles si t'as jamais vu Metallica, puis, tu sais, je comprends tout cet effet-là, puis je l'ai aussi à certains égards, mais là, c'est autre chose parce que, d'abord, il faut que vous compreniez que moi, E.T., quand ça sortit, j'étais en secondaire 3, puis j'allais le voir une fois par semaine. J'allais voir le film une fois par semaine. Puis j'en braillais, parce que moi, je pleure à mort au cinéma, je pleure à côté. Puis pour des niaiseries, là, ça me demande pas nécessairement, ah, mon Dieu, que c'est déchirant, je braille au cinéma, t'sais, beaucoup. Et puis hier, bon, j'ai pas braillé à côté, je sais pas, j'étais comme fasciné par l'orchestre. C'est bizarre, hein? Je m'attendais à me vider, là, littéralement, là, de perdre 8 livres de larmes, puis non. J'étais extrêmement ému, mais oui, j'ai quelques larmes, comme on dit. Puis je me retenais pas particulièrement là, c'était comme... Mais j'ai remarqué qu'à la fin surtout, alors que c'est tellement magnifique, quand ils font leurs adieux, le petit, puis là, ils partent, écoute, les violons, l'orchestration de tout ça, là, que j'écoute, je le répète, depuis des années. On dirait que là, j'étais absorbé par l'orchestre, j'ai vraiment halluciné. Et voilà, les lumières ont allumé à la fin, les gens se sont levés, il y a eu un standing hyper long, la salle était archi pleine, quand même pas loin de 2000 personnes hein, dans cette salle-là. Ça fait que moi, je pense que ça a été un gros succès. Dans le sens que même financièrement, je sais pas qu'est-ce que ça coûte, combien ça rapporte, etc. Ça, ce bout-là, je l'ignore. Là, en humour, je pourrais vous le dire quasiment à la scène près, mais pour un orchestre, je le sais pas. Mais ça a marché. T'sais, franchement, là, c'était vraiment plein. Puis c'était extraordinaire. Ça fait que je vous souhaite ardemment de pouvoir vivre des moments comme ça, des choses que vous tripez, puis qui représentent des... Moi, pour moi, c'est des événements, là, je vous le dis honnêtement. Comme là, la fois, ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire des démarches auprès de l'orchestre pour voir s'ils ne pourraient pas faire l'équivalent avec Cinéma Paradiso, qui est mon film préféré, qui est une musique d'Ennio Morricone, mais pas avec Ennio Morricone, je comprends bien. Comme là, c'était pas John Williams, c'était Dina Gilbert, de son nom, comme je vous ai dit. Mais je veux dire, moi, j'irais autant qu'il y en a, là, des musiques de films de même. Puis là, ça, c'est mes goûts à moi. Il y en a d'autres qui aiment mieux d'autres compositeurs. Bon, mais c'est même une question. Je me dirais, comment ça se fait que c'est pas régulier? Pourquoi il n'y a pas au moins une fois par saison un concert de musique de film? Il y en a-tu des films? Il y en a comme une trollée. Il y a peut-être des droits qui sont durs à acquérir aussi. Je ne sais pas comment ça marche. Mais je veux juste vous dire que hier, j'ai été extrêmement touché par cette affaire-là. Vraiment. Que je souhaite à tout le monde de pouvoir assister à un truc comme ça, qui tire des larmes, puis qui remonte à quand t'étais ado, puis... Non, franchement, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part ça, mais ce matin, je me suis levé, puis j'ai fait, attends, j'ai pas le choix, là. Il faut vraiment que je vous mette en circonstance, puis que je vous raconte à quel point ce truc-là... Puis la musique de film, si vous connaissez pas, ben, ça marche de même, hein? C'est comme... On est tout le temps en train de se faire sensibiliser ou introduire à quelque chose par quelqu'un, tout le temps. Puis moi, c'est Michel Gagné, mon ami, que je m'étais fait en secondaire 3. C'était son frère qui était mon ami à l'école. Puis quand je suis allé chez lui, les premières fois, j'ai rencontré Michel. Puis whoop, c'est Michel qui est devenu mon ami, c'est drôle, hein? Puis j'ai continué à être chum avec Alain, mais Michel est devenu... Puis là, aujourd'hui, il vit aux États-Unis. C'est un gars qui travaille dans le cinéma. C'est une sommité dans le cinéma d'animation. Vraiment, là, connu partout. C'est que je suis bien fier de Michel, puis j'ai toujours gardé le contact, on se fait des Skype, etc. Quand il vient à Montréal, on se voit tout le temps, puis c'est lui. Il était déjà un crack de ça, lui. Il avait des bobines Super 8 de Star Wars, puis il écoutait ça, là. T'sais, c'était le premier Star Wars, là. C'est fait que c'était le deuxième, je pense que c'était Empire Strikes Back, là. Le premier, c'était en 77. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que si vous avez la chance, si vous voulez découvrir de la musique de film, faites John Williams, puis faites Ennio Morricone. Vous pouvez aller carrément dans YouTube, vous allez voir tous les films qui sont reliés à ces gars-là. Puis plonger là-dedans, ça évoque énormément. C'est de la musique extrêmement colorée. T'sais. La musique de film, c'est une musique qui est très hard. Il y a beaucoup de musique classique, mais le jazz, par exemple, qui est plus intérieur. T'écoutes du jazz ou du blues, bon, tu comprends un peu que c'est ça, le mot blues vient de là, c'est « je suis un peu tristounet », etc. Mais ça n'a pas l'intensité de la musique de film, c'est vraiment le mot, c'est d'une intensité, ça n'a aucun sens hier, je vous le jure, là. Quand tu vois tout cet orchestre-là qui part à la fin, là, hey, en tout cas, bref, oui, ça me fait capoter plus que la moyenne des ours, mais c'est mon podcast, alors aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous dire. Salut!